Genèse 3 décrit une série de ruptures par rapport au projet originel de Dieu. La sexualité est bouleversée. L'homme a honte. Il n'arrive plus à maîtriser cette énergie. Avec des indices qui apparaissent, la nudité honteuse, c'est le symbole de la culpabilité, d'où le cache-sexe et l'absence de transparence, d'où la peur de rencontrer Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est le premier conflit conjugal de l'histoire. L'homme laisse faire le mal plutôt que protéger son épouse. Et puis, il accuse sa femme. Et vous voyez, très vite dans le couple, il va y avoir l'idée de domination de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la violence s'introduit dans le couple. Elle ne va pas s'introduire que dans le couple, dans toutes les relations humaines. Mais elle s'introduit dans la relation humaine, je dirais, la plus profonde et la plus intime. Il y a désormais la violence qui arrive. Et malheureusement, ça peut être le cas dans la relation sexuelle. Disons que la relation sexuelle devient un combat, d'une certaine manière. Pour que ce soit positif, ce n'est pas simple comme avant. Alors les conséquences immédiates et lointaines, bien sûr, sont désastreuses. Violence, corruption, dépravation sexuelle se répandent rapidement. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, parce qu'il y en aurait des pages. J'ai pris quelques exemples simplement dans le livre de la Genèse. Et alors vous avez la polygamie, les unions mystérieuses, l'exhibitionnisme, l'adultère, l'homosexualité, le viol, l'inceste, relations préconjugales et prostitution. Donc je pense que la liste est déjà suffisamment fournie. Et voyez, la parole, c'est un miroir. Elle nous renvoie l'image de ce que nous faisons, ou pouvons faire. Aujourd'hui, rupture Bible-sexualité, rupture mariage-sexualité. Notre civilisation postmoderne n'a peut-être pas aggravé les ruptures, mais elle cherche à les justifier. Moi, ce qui me frappe, c'est que je ne suis pas persuadé, si vous voulez, que l'immoralité soit plus profonde aujourd'hui qu'au Moyen-Âge ou à l'époque de Paul. Dans notre civilisation occidentale, je pense qu'on est plutôt un cran au-dessous pour l'instant. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus troublant, je ne crois pas qu'à l'époque de Paul, on justifiait ça. On disait, oui, mais c'est normal. On vivait peut-être comme une chose relativement normale. Peut-être, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne le justifiait pas. Tandis qu'aujourd'hui, on dit, bah oui, mais chacun a la morale qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est normal. Qu'est-ce que, de quoi tu te mêles? C'est privé, ça ne te regarde pas. Et donc, il y a une espèce de justification du mal qui m'apparaît extrêmement dangereuse. Donc, je ne fais que rappeler les titres. Recherche à peu près exclusive du plaisir aujourd'hui, vous l'avez déjà dit. Une sexualité au contour de plus en plus flou, on veut faire un peu n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis la procréation est déconnectée de la sexualité. Et aujourd'hui, l'homme va pénétrer dans le sacré. C'est-à-dire qu'on va vouloir créer l'homme un petit peu comme on veut sur le clavier de la génétique. Ça, c'est quelque chose que Jean-Louis nous traitera dans 15 jours, Dieu voulant. Et puis il y a rupture, mariage, sexualité. Alors, vous avez le triangle père-mère-enfant, qui est un triangle équilibré. Mais voilà aujourd'hui ce qui se passe. Le triangle est éclaté, avec la crise de la famille. Venons-en à la reconstruction. Le sens de l'engagement sexuel est rappelé dans l'Ancien Testament. Le modèle biblique est unique dans ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien. Alors, je ne vais pas développer, mais il y a quelque chose quand même d'important. C'est que dans l'Orient ancien, la sexualité, elle n'est pas conçue comme quelque chose qui est de la création. C'est quelque chose qui vient des dieux, qui est de l'au-delà. Et par conséquent, on va chercher dans les fêtes divines, dans les fêtes païennes, la sexualité prend une grande place. Elle a une part un petit peu mystérieuse. Donc, il y a des prostituées sacrées dans les temples, etc., etc. Donc, on voit quelque chose qui vient plutôt d'un monde un peu extérieur à l'homme, alors que ce n'est pas du tout la pensée de la Bible, qui fait de la sexualité quelque chose de normal, dans un cadre précis. La sexualité n'est pas un jeu. Alors c'est très frappant de voir, comme dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, dans le Deutéronome, comment Dieu protège ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles ou d'amour de passade ou de choses comme ça. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il la prendra pour femme en payant une dot. Voilà, tu as fait quelque chose, eh bien tu assumes. Si son père refuse absolument de la lui donner, il lui pèsera de l'argent selon la dot des vierges. Je crois que ce qui est important, c'est de bien se comprendre ce qu'est le capital dignité. Dieu nous a créés à son image, et lorsqu'on vit selon ses commandements, on est à l'aise. Et on fait en quelque sorte briller, si j'ose dire, cette image. Et que fait le péché? Eh bien, il obscurcit l'image de Dieu. Il obscurcit la communion. Il obscurcit la proximité avec Dieu. On se sent mal. Et alors, l'homme descend en quelque sorte au-dessous de ce que Dieu a prévu pour lui. Et donc, il entame ce capital d'iniquité chaque fois qu'il pêche. Et je crois que les gens qui se sont laissés prendre dans ce genre de choses, eh bien, en général, ils se sont dévalorisés. Et quelquefois, beaucoup se sont laissés prendre dans l'enfance. Ils n'en sont pas du tout responsables, ils en sont des victimes. Mais chacun sait que ça peut vous accompagner malheureusement toute la vie. A l'inverse, lorsque la sexualité est vécue de façon biblique au sein du mariage, eh bien, elle garde cette dignité et elle nous permet de croître selon la parole. Alors, quelle place le Nouveau Testament accorde-t-il à la sexualité? On voit toujours dans la reconstruction divine. Les évangiles en parlent relativement peu. Il y a quelques scènes avec la femme adultère, il y a Matthieu 19, mais il y a peut-être aussi quelques textes dans le Sermon sur la montagne. Mais globalement, les évangiles en parlent relativement peu. Les épîtres de Paul en parlent beaucoup, je vous l'ai dit. Bon, il y a des livres qui n'en parlent pas. L'Apocalypse, ce n'est pas son sujet, c'est clair. L'épître à Philémon aussi. Bon. Donc, je vais voir ce que dit Paul dans ces différentes épîtres. Ceci étant, je ne m'attarderai que à la première épître aux Corinthiens, parce que les autres épîtres, on les a plus ou moins déjà traités. Alors, pourquoi Paul évoque-t-il si souvent la sexualité dans ses épîtres? Tout simplement parce que Paul est confronté au paganisme, avec des jeunes croyants qui continuent à vivre selon la morale sexuelle qu'ils ont héritée du paganisme, qu'ils avaient intériorisée. Ils essaient de vivre avec, en l'accordant avec la foi nouvelle, mais ça ne marche pas. Alors, il y a des croyants de Corinthe qui vont, par exemple, fréquenter les prostituées. Alors, quand même, Paul trouve que ça ne va pas. Alors, il vient leur contente pas de reprendre ce que dit l'Ancien Testament, il va le développer et il va l'expliciter, lui donner une dimension nouvelle. Et il va employer un vocabulaire qui est très précis, c'est le mot porneia, qui veut dire tout simplement fornication, ou je traduirais mieux, je préfère inconduite sexuelle, toute forme d'inconduite sexuelle. Alors la situation des pagano-chrétiens à Corinthe, ils avaient deux arguments ces pagano-chrétiens. Ils disaient, les aliments sont pour le ventre. Ils disaient que, alors Paul leur répond, pardon, dans le texte que j'allais lire, donc je vais quand même dire d'abord ce qu'ils disaient. Ils disaient, la sexualité, vous savez, c'est comme boire et manger, hein. C'est un besoin physiologique, donc on n'a pas trop à se soucier. Et puis il y en a d'autres qui disaient, mais Paul, tu nous as dit, tout est permis, donc on peut y aller. Alors Paul vient leur dire, non, d'accord, les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Mais Dieu réduira celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, n'est pas pour la porneia. Il est pour le Seigneur comme le Seigneur pour le corps. Donc Paul vient leur dire, attention, le corps a une dimension unique maintenant que vous êtes croyants. Et il va leur dire, elle est le temple du Saint-Esprit. Vous avez un autre divin, et pour cette raison, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et puis, il va leur dire, oui, tout est permis, bien sûr, j'ai certainement dit ça, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne peux pas me placer sous un esclavage quelconque, et notamment celui de la chair et de la concupiscence, comme dirait un dénommé Luther. C'est un de ses mots favoris. L'argumentation de Paul, c'est donc une nouvelle doctrine du corps. Premier argument, le corps a une place particulière dans la Bible. Ignorez-vous que vos corps sont les membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront qu'un, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Deuxième argument, le péché sexuel a un caractère particulier. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Et déduction, eh bien une nouvelle échelle de valeur. Vous voyez, l'argumentation de Paul est très logique. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à jouer sur les sentiments. Il fait appel à l'intelligence spirituelle des Corinthiens. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Car vous avez été racheté à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. Alors Éphésiens, on connaît ce texte, je l'ai mis, mais je passe parce que c'est un texte qui est bien connu. Et j'en viens à ma dernière diapositive, ou l'avant-dernière. ce que j'appelle le petit guide de la sexualité d'après Paul. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai fait une traduction un petit peu libre du texte de 1 Corinthiens 13. La sexualité, elle est patiente, elle ne s'impose pas à l'autre, ou elle n'impose pas à l'autre. Elle est serviable, elle est au service de l'autre. Elle cherche l'épanouissement de l'autre. Elle n'est pas envieuse. Elle ne copie pas d'autres couples, réels ou virtuels. Parce qu'aujourd'hui, avec la télé, beaucoup de couples virtuels. Elle ne se vante pas, elle est humble et discrète. Elle ne fanfaronne pas ses réussites. Elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne cherche rien de malhonnête. Elle ne recherche pas ce qui est dégradant pour l'autre. Elle ne cherche pas son intérêt, elle cherche l'intérêt du conjoint. Elle ne manipule pas l'autre, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu veut que nous vivions la sexualité. Que nous dit-il ? Que tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle, que tu es beau, mon bien-aimé. Tu es superbe.